Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Dans l'après-midi, la justice brésilienne avait ordonné la remise en liberté de l'ancien président Lula, incarcéré pour corruption. Il vient tout juste de quitter la prison de Curitiba dans le sud du pays, correspondance d'Envignam. Critère de divergence au beau fixe entre Paris et Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel contredit et sèchement le président français Emmanuel Macron sur l'élargissement de l'Union européenne. Emmanuel Macron qui par ailleurs ne ménage pas la règle des 3% de PIB et de déficit public. Précision de Louise Baudet. Un juge des référés valide les arrêtés anti-pesticides pris au nom du danger grave pour les populations exposées par les maires de Gennevilliers et de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Explication de Florence Turme. Et puis invitée de cette édition, Amandine Hess, présidente de la Fédération indépendante du Made in France. Le Made in France qui tient salon à Paris jusqu'à lundi. Après donc 19 mois de prison, Luis Ignacio da Silva Lula recouvre la liberté. Il a été incarcéré après avoir été reconnu coupable en appel d'avoir reçu un triplex en bord de mer en guise de pot de vin de la part d'une entreprise du bâtiment en échange de l'attribution de marchés publics. Nous sommes en ligne de Rio de Janeiro avec vous, Anne Vigna, bonsoir.
Oui, pas sûr que l'ambiance soit à la fête dimanche soir au château Bellevue de Berlin, résidence du président allemand.
Anne Vigna, m'entendez-vous? On a eu un petit problème d'aiguillage. Anne, tout d'abord, vous nous confirmez que Luis Ignacio da Silva Lula est sorti de prison?
Oui, écoutez, il vient d'être libéré depuis une vingtaine de minutes et il est actuellement en train de parler à des centaines de militants qui l'attendaient depuis ce matin.
Quel point de droit, Anne, a conduit à la libération de Lula?
Écoutez, son avocat avait demandé donc ce vendredi matin sa libération immédiate en arguant que la justice n'avait plus aucune raison en fait de le garder prisonnier. Il est resté 580 jours, comme vous l'avez dit, en prison. Et en fait, il a bénéficié quasiment immédiatement donc de la décision de la Cour suprême qui a été votée hier soir aussi, comme près d'ailleurs de 5000 autres prisonniers au Brésil qui devraient aussi être libérés dans les jours qui viennent. Ils peuvent désormais tous attendre en liberté le dernier recours de leur condamnation. Dans le cas de Lula, c'est une condamnation donc à 8 ans de prison. Il lui reste un recours devant un tribunal supérieur. La Cour suprême a donc considéré que personne, aucun condamné ne pouvait être mis en prison avant d'avoir essayé tous les recours judiciaires. Dans le cas de Lula, il y a d'autres affaires qui l'attendent devant la justice. Au total, il est quand même accusé dans 8 affaires. Qui sont toutes très controversées hein, au regard notamment des récentes fuites des communications qu'il y a eu entre les procureurs et le juge Sergio Moro, qui était juge à l'époque et qui est aujourd'hui le ministre de la Justice de Jair Bolsonaro.
Anne Vigna, où va se rendre l'ancien président brésilien?
Alors, il avait d'abord toujours promis hein, de s'arrêter, comme il est en train de le faire actuellement, sur le terrain qui est en face de la prison, parce que depuis le début de son incarcération, des militants campent pour réclamer sa libération. Il est en train de les citer là dans le discours, l'un après l'autre. Il avait donc promis de boire un verre avec ses militants avant de rejoindre son domicile, qui est à San Bernardo do Campo, dans l'État de São Paulo. Et c'est là que son parti, le Parti des Travailleurs, a demandé aux militants de se regrouper ce week-end pour fêter sa libération.
Merci à vous, Anne Vigna, en direct de Rio de Janeiro. Haïti, plus d'un habitant sur trois est dans une situation d'insécurité alimentaire grave selon le Programme alimentaire mondial. Parmi eux, plus d'un million sont dans une situation d'urgence, précise le PAM. La chancelière allemande exprime clairement son soutien aux pays des Balkans dont les candidatures d'adhésion à l'Union européenne ont été vivement critiquées le mois dernier par plusieurs leaders européens dont Emmanuel Macron. Angela Merkel considère les candidatures de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, je cite, d'une importance stratégique extrême, Louise Baudet.
Oui, pas sûr que l'ambiance soit à la fête dimanche soir au château Bellevue de Berlin, résidence du président allemand, où Angela Merkel et Emmanuel Macron se retrouvent pour réfléchir au sens du projet européen. Une Europe à combien? Question hautement sensible. L'adhésion des pays des Balkans n'est pas d'actualité, martèle Emmanuel Macron, qui veut d'abord que l'Europe se réforme, d'où le veto français le mois dernier à l'ouverture de négociations avec la Macédoine et l'Albanie. Sauf que cet élargissement, il est d'une importance stratégique extrême, rétorque York, la chancelière allemande, qui recevait ce midi Ursula von der Leyen, la patronne de la future commission de Bruxelles, souligne, elle, les efforts énormes fournis par ces deux pays à qui l'Europe doit offrir des projets communs, sinon d'autres le feront.
Ajoutons ce qui s'apparente dans un premier temps à un incident diplomatique. L'ambassadeur de France à Sarajevo, convoqué cet après-midi par la présidence de la Bosnie-Herzégovine au lendemain de l'interview donnée à l'hebdomadaire britannique The Economist par le président français qui compare le pays, je cite, à une bombe à retardement confrontée au retour des djihadistes de Syrie, une bombe à retardement qui fait tic-tac à côté de la Croatie. Fin de citation. Louise Baudet, cette fois l'autre charge sonnée par Emmanuel Macron, a visé l'un des critères de convergence du traité de Maastricht, la fameuse règle des 3% du PIB de déficit public.
Oui, encore un sujet qui va mettre une bonne ambiance dimanche à Berlin. Mine sombre et manches retroussées, Emmanuel Macron prévient en une de l'hebdomadaire britannique « L'Europe est au bord du précipice, minée par ses divisions et agrippée au totem des 3% de déficit, débat d'un autre siècle », dit-il, alors qu'il faudrait investir massivement comme le font la Chine ou les États-Unis. Cette exhortation, elle s'adresse à l'Allemagne, première économie et locomotive du vieux continent, quand de l'autre côté du Rhin, on tord le nez devant la fameuse incapacité française à tenir ses déficits et à se réformer. Contentieux ancien, singulièrement ravivé par un Emmanuel Macron plus disruptif que jamais. Ainsi, l'OTAN qu'il juge en état de mort cérébrale, alors que l'Alliance Atlantique reste pour Angela Merkel la pierre angulaire de notre sécurité.
Merci à vous, Louise Baudet. Restons en Allemagne. Deuxième jour de grève du personnel de cabine de la compagnie allemande Lufthansa. 1500 vols supprimés ces dernières 48 heures et des négociations grippées sur des augmentations de salaire pour les nouveaux employés et de meilleures conditions de travail. L'Allemagne, qui n'aurait pas intérêt à ce que le Made in France ne prenne de l'ampleur. Le Made in France qui tient salon jusqu'à lundi soir, porte de Versailles à Paris. L'occasion de faire le point sur ce label. Invité de ce journal, comme convenu, Amandine Hess, présidente de la Fédération indépendante du Made in France. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et première question, quelle garantie au juste associée au Made in France ?
Alors le Made in France, c'est une indication d'origine qui est décernée par les douanes et ou la DGCCRF quand le produit est fabriqué en France. Donc c'est une appellation d'origine qui vous garantit que le produit a pris tout ou partie de sa valeur ajoutée en France.
Alors tout ou partie, tout est là, ça peut vouloir dire qu'il a subi sa dernière transformation sur le territoire.
Exactement, en fait, ça dépend de la catégorie de produits dont on parle. Alors, toutes les catégories étant différentes, on ne peut pas faire de généralité sur ce qui est un Made in France. Il faut vraiment envisager cela produit par produit. Nous, Français, on aimerait que ce marquage d'origine soit rendu obligatoire. Malheureusement, on a des petits voisins européens, je pense à nos amis allemands, qui souhaitent en fait que ce marquage ne soit pas rendu obligatoire pour des raisons qui leur sont propres, étant donné qu'ils ont beaucoup à y perdre.
Alors, au chapitre des obstacles, des difficultés, on va les nommer comme telles, il y a ces réalités constatées. Les grands groupes préfèrent produire en zone low cost plutôt que de produire en France avec un certain nombre de contraintes, de taxes et de coûts.
Oui, alors je discutais justement aujourd'hui avec quelqu'un qui fait des call centers qui me disait qu'en fait il y avait un vrai retour en fait à une production locale française puisqu'il y a beaucoup de coûts de disqualité qui aujourd'hui, vu le coût des matières premières et des hydrocarbures, font peser énormément sur le coût et en fait produire à l'étranger est plus si compétitif que ça.
Vous voulez dire que les réalités climatiques cette fois pourraient plaider pour le Made in France ?
Alors également aussi, il y a une prise de conscience de la part des consommateurs qui commencent à allier le geste à la parole et non plus juste des vœux pieux, mais exigent également donc que les produits soient faits local et donc sont prêts à mettre également un peu plus le prix pour des choses qui sont faites à proximité et donc un peu plus chères.
Amandine Hess, je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération indépendante du Made in France. Alors, les grands groupes, c'est encore compliqué, bien que ça bouge, si on vous écoute bien. Les entreprises de taille intermédiaire ont l'air plus enclines à créer des emplois et à faire le choix du Made in France.
Oui, également. Elles n'ont pas la taille critique pour se permettre de délocaliser et d'aller chercher des coûts à l'étranger. Et puis, il y a une vraie conscience, en fait, dans ces entreprises qui sont souvent des entreprises familiales et qui emploient parfois quelques générations au sein de leurs entreprises, des familles. Et donc, il y a une vraie volonté de garder du local et de fabriquer en France et de ne pas céder donc aux sirènes de la délocalisation.
Est-ce qu'il y aurait, de manière un peu manichéenne, l'esprit terroir contre la culture profit ?
Alors, j'irai pas jusque là parce qu'on a également des grands groupes industriels qui, eux, font le choix de rester en France et de ne pas délocaliser. Vous avez plus des groupes qui céderont du coup à des logiques consuméristes, mais qui essayeront de se rattraper avec du greenwashing ou du franco-lavage, comme on l'appelle chez nous. Mais vous avez aussi certains grands groupes qui, eux, préfèrent rester en France et le prouvent au quotidien. Je pense par exemple à Toyota qui a décidé d'avoir des lignes entières de production qui restent dans le nord de la France.
Franco-lavage en quelques mots pour nous aider.
Franco-lavage, c'est le terme qui vise à déguiser ou à faire passer pour français ce qui ne l'est pas. On pense à du designé en France, conçu en France, imaginé en France. Toutes ces appellations qui, au final, ont un peu visé à vous faire croire que le produit a effectivement été produit en France, alors qu'il n'a subi qu'une toute petite partie de sa conception, en l'occurrence. Et ça, c'est problématique parce que ça trompe le consommateur.
Alors, il nous reste très peu de temps. Deux points très rapidement. Les produits Made in France s'exportent bien, vous confirmez ?
Oui, ils s'exportent très très bien. Il faut voir, le salon de Made in France, Miss Expo, s'est exporté à New York et à Singapour il y a 2 ans. Des grands succès commerciaux. On a vu de grandes marques françaises qui ont sauté le pas de l'export et qui ont été largement plébiscitées à l'étranger.
Et un tout dernier point, cette fois, une sociologie express des consommateurs. Qui consomme Made in France ? Vous en avez une idée ?
Oui, on a une petite idée, une étude qu'on a réalisée en 2015. On est plutôt sur un profil féminin, cadre sup, vivant dans les villes, et où on a une deuxième typologie. On est sur des ruraux qui font très attention à leur consommation et qui ont à cœur de consommer français pour des impacts sociétaux et locaux.
Merci à vous, Amandine Hess, présidente de la Fédération indépendante du Made in France. À Hong Kong, hommage a été rendu dans une atmosphère tendue à l'étudiant décédé le week-end dernier. Il a chuté d'un parking à étage lors d'affrontements entre la police et des manifestants. 5 mois de contestation sur l'île. C'est un reportage à Hong Kong de Florence de Changy.
Alors que certaines veillées ont eu lieu dans le plus grand calme et le recueillement, comme à Causeway Bay vendredi soir, ailleurs s'évitent la colère et la frustration qui l'ont emporté. Sur le campus de l'université de Hong Kong, Nicolas, étudiant de 21 ans, en droit et en sciences politiques, parle du drame avec ses amis.
C'est vraiment navrant que la jeunesse de Hong Kong doive autant sacrifier. On a vu de nombreux suicides, des blessés, des gens se faire poignarder, se faire arracher l'oreille. Une journaliste a perdu un œil. Avec une telle progression du mouvement, c'est vraiment au gouvernement de résoudre cette crise.
Pour l'avocate et ancienne députée Margaret Ng, il est essentiel que les zones d'ombre qui entourent cette mort soient levées.
Cela fait longtemps que l'on redoute le jour où la vie de quelqu'un serait sacrifiée dans ce mouvement. Et il faut un effort déterminé pour connaître exactement ce qui s'est passé et qui est responsable.
De nouvelles informations sont sorties aujourd'hui, obligeant la police à admettre qu'elle était dans le parking où le jeune homme a été retrouvé inconscient beaucoup plus tôt que ce qu'elle avait initialement annoncé. Elle a reconnu son erreur, mais nombre de manifestants crient vengeance.
Plus de 9 mois après le premier soulèvement citoyen, des milliers d'Algériennes et d'Algériens ont une fois de plus défilé dans les rues des principales villes du pays et dénoncé, je cite, un état militaire, non sans oublier de conspuer le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaï Salah, qui hier déclarait que ces manifestations anti-régime détruisaient les fondements de l'État. Il est 22h13, vous écoutez le journal de France Culture. C'est une première, un juge des référés a rejeté aujourd'hui la demande de suspension de 2 arrêtés anti-pesticides pris par les mairies de Gennevilliers et de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, refusant donc de faire droit à la préfecture qui, comme partout ailleurs en France, estime qu'une telle interdiction n'est pas de la compétence d'un maire. C'est un jugement en référé qui ne porte pas sur le fond, mais les opposants aux pesticides y trouveront des arguments qui ne devraient pas leur déplaire. Et surtout, surtout Florence Turme, cette décision prend le contre-pied de celle qui avait été rendue à Rennes dans l'affaire opposant l'État à la commune de Langouette.
Au départ, même cas de figure. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal des référés de suspendre les arrêtés municipaux pris par les maires de Sceaux et Gennevilliers. Nous ne sommes plus cette fois-ci en milieu rural, mais en milieu urbain. Et les deux élus ont interdit l'usage des pesticides dans des espaces fréquentés par le public. Crèches, écoles, lycées, établissements de soins et d'accueil des personnes âgées. Mais là où les précédents jugements ont estimé que le maire était sorti de son champ de compétences, la juge des référés de Cergy-Pontoise estime qu'il était dans son bon droit, compte tenu du danger auquel ses populations populations vulnérables étaient exposées. Corinne Lepage, l'avocate des deux communes.
Le juge des référés a refusé donc de faire droit à la demande du préfet de suspendre l'arrêté des maires de Gennevilliers et de Sceaux en considérant d'une part qu'on était dans un cas de carence de la police spéciale qui donne compétence à l'État et que donc les maires pouvaient agir. Et deuxièmement, et ça c'est nouveau, qu'on était donc dans un cas classique de police générale et que, compte tenu de la dangerosité des produits, les maires étaient tout à fait dans leur bon droit de protéger la santé des habitants.
Une première victoire judiciaire pour les élus qui ont emboîté le pas au maire de Langouette. Plus d'une centaine de communes ont pris des arrêtés similaires et des dizaines de procédures de ce type sont en cours à travers la France. Autant de décisions à surveiller désormais avant de parler de jurisprudence. Le tribunal administratif de Cergy doit également maintenant se prononcer sur le fond.
Après bien d'autres centrales syndicales, la CGT cheminots appelle à une grève reconductible le 5 décembre prochain contre la réforme des retraites. Quelques mots de la météo de demain, ciel gris, sauf sur la façade atlantique et la Méditerranée où le soleil fera de belles apparitions. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique, Clément Daté.